Vous écoutez
RMC. RMC. After Foot. Intégrale Coupe du Monde. Intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brivois.
L'after continue jusqu'à 1h du matin sur RMC comme tous les soirs ici en direct du Qatar. Nous sommes là à la veille des quarts de finale. On va en parler dans quelques instants de ces quarts de finale, du reste de l'actu foot du jour bien sûr. Avec Florent Gautreau qui est de retour dans l'after. Salut Florent.
Salut à tous et amis du bémol, bonsoir.
Stéphane Guy est là également, salut Stéphane.
Citoyen, bonsoir.
Jusqu'à 1h du matin, ensuite la libre antenne de l'after avec Nico Villas et Thibaut Giangrande dans l'after, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas. On a des invités ce soir dans notre studio ici au Qatar, deux supporters des Bleus, Moreno et Sylvain, qui sont là. Salut les gars.
Bonsoir à tous.
Et Mohamed, qui, toi, je crois que tu es partagé entre Maroc et France, c'est ça?
Oui, c'est ça. Mais supporter de la France et du Maroc.
C'est possible ça?
Oui, c'est possible.
D'accord. Bon, bah, très bien. Du coup, tu veux France-Maroc en demi-finale?
Bon, on espère.
On va en parler justement tout à l'heure du Maroc, parce qu'on se posait la question de savoir si c'est vraiment possible d'aller plus loin.
Honnêtement, je pense que c'est compliqué avec la débauche d'énergie qu'il y a eu contre l'Espagne. Mmh. En plus, 120 minutes, plusieurs joueurs blessés sur les rotules. Ça va être très compliqué, mais bon. Ils ont déjà marqué l'histoire.
On en parlera tout à l'heure de ce match. D'ici là, le match France-Angleterre de samedi. Florent veut parler de la défense des Anglais. On va parler de Deschamps également avec Stéphane. Le Brésil au programme qui joue demain face à la Croatie. Ce sera à 22h45. Les Brésiliens sont-ils les favoris numéro 1 de la compétition? Le Maroc donc à 23h. Hamza Rahmani, notre spécialiste des équipes africaines, sera là. Et puis Fred Hermel à 23h30 nous dira tout du nouveau sélectionneur de l'Espagne. Il nous avait annoncé le nom hier quand même, Fred. Bon, il avait donné une liste de 25 noms, donc on va dire qu'il y en avait au moins un de bon dedans. Maintenant, on sait qui c'est. Il nous expliquera ça tout à l'heure, et puis le reste de l'actu du jour. Mais pour démarrer, on va dire un mot de l'Olympique lyonnais. Ça a rien à voir avec la Coupe du Monde, mais enfin tout de même, il y a une actu lyonnaise aujourd'hui importante. Il faut qu'on en dise un petit mot. Le 32-16 est ouvert pour tous ces sujets. Le hashtag RMC Live et bien sûr la messagerie Direct Studio sur nos applis qui est là pour vous, évidemment, pour télécharger les podcasts notamment. Et écoutez la radio numérique RMC spéciale Coupe du Monde 24h sur 24 où vous pouvez retrouver quelques membres éminents de l'after. Et oui, et puis alors, le cadeau foot corner du soir, c'est un maillot des Pays-Bas. Donc si vous voulez gagner ce maillot des Pays-Bas, vous envoyez foot par SMS au 7-32-16. Alors Lyon, Florent et Stéphane, pourquoi? Parce que, bon déjà, l'OL a joué un match amical aujourd'hui face à Arsenal, ils ont perdu. Donc bon, sur le terrain, c'est pas la joie.
Et Cherki a raté une Panenka.
Et Cherki a raté une Panenka, exactement, Florent. Voilà. Mais là, bon, ça c'est un match amical, on va dire qu'en considérant ça comme anecdotique. L'information du jour, c'est Canal+, donc qui a tweeté aujourd'hui en disant « Textor ne rachètera pas Lyon ». Alors Textor, derrière, a démenti. Il y a eu un communiqué de presse. Et en gros, un nouveau délai, un énième délai laissé à Textor. Donc sera-t-il une sorte de Jack Cashcar puissance 100 à l'Olympique lyonnais? Lui, qui quand même a été annoncé comme futur propriétaire de l'OL, rappelez-vous, le 21 juin dernier. Hein. Donc là, on est... plus de quasiment six mois plus tard. Donc petite info en passant, on rappelle qu'il faut que évidemment à Crystal Palace on donne l'accord parce que Textor est actionnaire de Crystal Palace, actionnaire minoritaire, ça traîne. Il faut évidemment rappeler que les actionnaires qui veulent vendre à savoir Pathé et les Chinois d'IDG veulent absolument vendre et qu'aujourd'hui en fait bah, ils sont un peu tenus par Textor parce qu'ils n'ont pas d'autre offre que celle de Textor, donc c'est pour ça qu'ils insistent pour que ça se fasse mais pour l'instant il y a pas de nouveau, voilà. Et puis alors, se pose quand même un problème, on nous alerte là-dessus là, si demain Crystal Palace et Lyon vont en Coupe d'Europe avec Textor comme actionnaire majoritaire d'un club et minoritaire de l'autre, bah il y aura problème selon les textes de l'UEFA. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc bref, tout ça semble quand même aujourd'hui loin d'un dénouement, nouveau délai, problème concret là lié à l'UEFA, lié à l'argent qui n'arrive pas. Bon, je ne sais pas si vous avez une réaction à donner, un sentiment à donner, les gars, mais je voulais qu'on ouvre avec ça, parce que ce n'est pas l'actu de la Coupe du Monde, mais il se passe beaucoup de choses en coulisses à l'OL, qui, bon, fait passer des messages d'ordre financier et tout, qui ne sont pas toujours faciles à décrypter, et puis on n'est pas dans le cœur du dossier pour tout savoir. Donc, on a les infos parcellaires que je donne là.
Le consultant financier là, qui est intervenu dans l'after il y a deux ou trois jours,
ouais,
révéler un peu les problèmes que ça posait, et surtout même si lui il l'a minimisé parce que il expliquait en gros que c'était un rachat par la dette, mais c'est quand même c'est quand même, par rapport à tous les rachats de clubs qu'on a connus en France ces dernières années, c'est des montants qui n'ont absolument rien à voir. On est dans une opération de plusieurs centaines de millions d'euros, même si c'est du rachat, ouais, de dette, ça reste quand même ça. Donc que ce soit complexe, que ce soit long,
de 800 millions hein.
Voilà, c'est pas on rappelle que le PSG ça a été vendu une poignée de clopinettes, que Marseille c'était moins de 100 millions, Bordeaux 100 millions quand même, si ça a vendu la première fois c'était une somme quasi record dans notre football. Donc on est dans une opération d'une toute autre dimension, avec un stade, avec différents actifs au sein du groupe OL. Donc moi je ne suis pas surpris que ce soit compliqué. Voilà. Après c'est tout ce que je peux en pas. Personnellement, je n'ai aucune information autre d'être pessimiste, pas pessimiste. C'est pas un problème d'optimisme et de pessimisme. C'est un problème d'avoir les garanties financières pour une opération qui est une grosse opération de rachat de club, une très grosse opération.
Ouais, ce qu'il faut expliquer, Florent, c'est que avoir des infos sur ce genre d'opération de rachat d'entreprise, c'est plus compliqué qu'avoir des infos sur un transfert en vérité, parce que il y a tellement d'éléments à maîtriser et tout. Alors d'un côté, t'as Jean-Michel Aulas et l'OL qui fait passer les messages, genre, mais vous allez voir, tout va bien, ce n'est qu'une question de temps et tout. Donc on joue la confiance. Et puis après, les infos qui viennent d'ailleurs, qui disent attention, c'est sur le point de capoter. Bref, donc
le fait que Textor agisse par sa holding, cette holding est déjà engagée dans Crystal Palace, ça complexifie encore énormément l'opération. Je pense que s'il n'était pas à Crystal Palace, ce serait fait ou pas fait, mais ce serait en tous les cas beaucoup plus simple.
Tout à fait.
Ce serait, oui, il y a quand même un point, c'est que Textor n'y va pas seul. Et qu'il a des associés, enfin, sur lesquels il compte, sans lesquels il ne peut pas racheter l'OL. En tout cas, il avait indiqué qu'il ne le ferait pas sans eux. Là, ça, c'est la première chose. Donc, ça aussi, ça complexifie. Parce que, est-ce que c'est Textor lui-même qui, lui, clairement, avait montré, on va dire, en plus de certaines garanties, qu'il était motivé pour le faire? Mais est-ce qu'on lui laisse faire cette opération en estimant qu'effectivement, elle n'est pas rentable, ou qu'il y a des discussions là-dessus? La deuxième chose qui est quand même embêtante sur le délai, même si peut-être qu'on peut le comprendre, mais ils avaient dit dans un premier temps que ce serait beaucoup plus rapide. Ils avaient même donné une date de closing qui était... il y en avait une au moins en novembre, mais je me demande même si il n'y en a pas une avant, en septembre. C'est qu'il y avait une promesse d'injection d'argent, y compris pour des raisons de mercato. Et là, on est en train, on va laisser peut-être passer, si ça devient encore plus lent, le mercato d'hiver. Enfin, en tout cas, pour préparer un mercato, ce n'est pas la même histoire. Parce qu'il y avait une somme qui était dédiée, on va dire, à une injection d'argent frais. On imagine dans le foot que c'est notamment pour recruter et on pense même que Laurent Blanc, quand il est venu, il aurait pu avoir des exigences, d'après ce qu'on sait, sur un recrutement à venir, parce qu'il estime que l'effectif n'est pas suffisant. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'implications là-dedans. C'est-à-dire que le fait qu'il arrive plus tard ou pas du tout, alors pas du tout, ce sera très très compliqué, mais même plus tard, c'est pas forcément une bonne chose. Pour revenir aux sportifs, parce qu'il faut toujours en revenir quand même à ça, et à la saison notamment en cours, je trouve que c'est inquiétant, de toute façon. Mais même si c'est complexe, même si c'est inquiétant pour l'OL, parce qu'une nouvelle fois, l'OL ne va pas pouvoir se projeter. J'imagine que Blanc a ciblé des postes, qu'il y a une liste, une shortlist qui a été faite, qui a été établie, et pour l'instant, ça n'avance pas.
J'ose imaginer quand même, Flo, qu'avant, là, on est le 8 décembre. Qu'avant le 31 décembre, on saura, quoi.
Oui, mais on se dit ça depuis un petit moment.
Ouais, bien sûr,
côté closing de novembre, on a dit.
Ouais, t'as raison.
Oui, bon, maintenant, c'est qu'une question de jour. Là, les démentis, tu sais, on dit quand un président dément qu'il veut séparer son entraîneur, c'est compliqué. Donc là, le démenti de l'OL, hein, parce que, rappelle que des deux côtés, sur Twitter, Textor a démenti qu'il y avait un problème, qu'il y aurait un problème, et l'OL, de son côté également, a fait un communiqué. Mais le communiqué de l'OL, il y a une petite phrase qui est assez, enfin, il s'engage change pas beaucoup par rapport au dernier. La probabilité, il existe une probabilité suffisante qu'un closing ait lieu rapidement. Et un peu plus
ça veut dire qu'il existe une autre probabilité suffisante qu'il se fasse pas aussi.
Ou peut-être moins probable, mais en tout cas, ça existe. Et ouais, tout à fait. Et il indique également en l'état des informations fournies par John Textor, OL Group estime qu'il existe, etc.
Tu remarqueras que ces communiqués de Lyon sont toujours tournés d'une telle façon que tu es une porte de sortie, en fait.
Alors, je vais te dire, c'est un mot en français. C'est un communiqué sibyllin. Parce que, alors là, je peux te dire que, moi, si on me dit, écoute, rassure-toi, Florent, en l'état des informations fournies par mon banquier, on estime qu'il existe une probabilité suffisante que ton prêt soit accepté. Je trouverais ça un peu alambiqué, en tout cas, à défaut d'être sibyllin.
Tiens, on a Quentin qui est là au 32-16, qui est supporter lyonnais. Salut Quentin.
Salut l'After, vous allez bien?
Salut.
Bon, je ne sais pas si tu bosses dans la finance.
Pas du tout. C'est pour ça que c'est difficile un peu de comprendre tous les enjeux financiers derrière tout ça. Bon, après, l'émission que vous aviez faite, je crois que c'était avant-hier, là, c'était assez intéressant. On pouvait apprendre pas mal de choses. Bon, après, globalement, moi, si je me place en tant que simple supporter, j'ai l'impression de me faire balader quand même, hein, depuis quelques mois, là. Donc, ça semble un petit peu compliqué, c'est jamais clair. Balader et par Textor dans un sens et puis par l'OL dans l'autre. Parce que finalement, du coup, alors à moins que j'ai raté une information, mais il m'a semblé que la date d'hier, c'était censé, il l'avait annoncé comme un ultimatum et le dernier délai. On est d'accord?
Un énième ultimatum, même, parce qu'il y en a déjà eu plusieurs, des ultimatums.
Dans ce dossier-là, faut jamais dire que le dernier jour est le dernier jour, quoi. Tu vois, faut toujours se laisser une porte de sortie.
Ouais, mais surtout quand t'as qu'un acheteur potentiel, qui en fait aujourd'hui c'est lui qui dicte le calendrier. C'est-à-dire que si encore il y avait deux acheteurs potentiels, tu pourrais un peu les mettre en concurrence, mais là il y a pas, c'est pas possible.
C'est exactement à ça que je voulais en venir. C'est que j'ai l'impression en fait que Lyon est piégé parce que finalement quoi qu'il arrive, tout sera une mauvaise nouvelle, parce que là, du coup, ce monsieur Textor, on a l'impression qu'on peut pas trop lui faire confiance. Daniel Riolo a l'air d'avoir des infos comme quoi le projet peut être inquiétant. Mais en même temps, si ça se fait pas, quel est le projet? Quel est le projet financier derrière tout ça? Donc, en fait, j'ai l'impression que, quelle que soit la décision, là, c'est inquiétant finalement. C'est très inquiétant pour le club.
En effet. Bon, on suit de près tout ça, Quentin, on vous est informé dès qu'il y a des nouveautés. Mais je voulais évidemment qu'on parle de ça dans l'after ce soir. T'as regardé Arsenal-Lyon, Quentin?
Pas du tout. La dernière fois qu'on s'est au téléphone, j'avais dit que moi je voulais faire un break de Lyon là jusqu'à la reprise de la Ligue 1, là, j'étais à fond sur la Coupe du Monde.
Tu respectes ton ramadan de Lyon.
Voilà, à moitié, parce que mine de rien, tu vois, ils arrivent quand même à nous rendre dingue là avec toutes ces infos là sur le repreneur, le pas repreneur, on arrive quand même à être dingue de Lyon, même quand ils jouent pas, quoi. Donc, non, j'ai pas.
Tu remarqueras cette capacité qu'a l'OL d'occuper le terrain quand il n'y a pas d'actu foot national. Pendant le confinement, c'était au LAS tous les jours, hein. Vous vous rappelez.
L'occuper de façon négative.
C'est ça. Pendant le confinement, il avait raison. Lui, il voulait pas qu'on arrête.
On était d'accord avec lui. Ouais, bon, après, on va pas revenir sur tout ce chemin-là, parce que bon, il est.
Parfois, il nous arrive d'être d'accord avec Jean-Michel, là, ça arrive.
C'est vrai. Non, mais par contre, Gilbert, je veux bien dire un truc 30 secondes, parce que tu parles du match Lyon-Arsenal. Bon, il se trouve que j'ai pas vu le match, mais j'ai quand même entendu que Cherki, notre cher Cherki, avait raté une Panenka. Mm-hmm. Donc, ça me permet quand même d'émettre quand même un avis sur ce joueur et je me dis qu'il symbolise énormément tous les mots lyonnais et les mots de la jeunesse lyonnaise. En fait, il comprendra jamais finalement ce que sera que l'exigence du haut niveau, ce qu'on attend de lui. Et quand là, on lui donne une chance de jouer, il tente quand même de briller en étant la star par le geste technique. J'ai l'impression que ce gamin-là, il progressera jamais en fait.
Alors attends, je vais apporter quelques précisions. Donc en fait, Lyon participe à un petit tournoi amical qui s'appelle la Dubai Super Cup. Donc pas très loin d'ici au Qatar. Vous savez que maintenant, le football, hein, c'est ici, hein, c'est le centre du monde, le golf. Ouais, le golf. Ouais. Hein, donc bientôt, Stéphane Guy et Florent Gautreau vont eux aussi déménager entre Riyad, Dubaï et et Doha, c'est inéluctable, tout comme Gianni Infantino. Et donc,
c'est probable, Gilbert, mais c'est pas sûr, hein, quand même.
J'étais sûr que tu réagirais. Donc, il y a Liverpool dans ce petit tournoi, il y a Arsenal. Et donc, en fait, Lyon a perdu 3-0 contre Arsenal, mais à la fin, il y avait une petite chance de tir au but pour déterminer le gagnant du tournoi. Bref. Et c'est là que Cherki, donc, a raté cette palenka. Et il y a des journalistes du Progrès ou un journaliste du Progrès qui est sur place. Et il y a un article sur rmcsport.fr et qui explique que selon le Progrès, certains joueurs et membres du staff de l'OL auraient pas du tout aimé cette fameuse panenka de, bah, de Cherki. Donc, tension, voilà. Tension,
dans l'équipe. Dans l'article qu'il avait tenté et raté la panenka et je me dis, bah, en fait, c'est, ouais, ça m'étonne pas lui. C'est-à-dire qu'on parle d'un gamin qui commence à jouer. Ça doit bien faire 3-4 ans.
Et déclaration de Laurent Blanc, la seule chose positive, c'est qu'on a couru. Voilà ce qu'il a dit. Ouais, c'est bon, quand même, bon. Non?
C'est pas mal, ouais.
Bon, je vais continuer mon break de Lyon, là. Comment tu descends, là? Je pense qu'on va se concentrer sur France-Angleterre. Ça va être pas mal.
Ça marche, Quentin. Bon, bah écoute, garde le moral. Hein. Et puis, il y a Lyon-Liverpool, du coup, dans 48 heures. On verra s'ils arrivent à se réveiller. Parmi vous trois, là, il y en a qui suivent l'OL ou vous en foutez complètement?
Ouais, pour un sudiste, on garde un œil.
Toi, t'es Marseillais, toi, donc?
Moi, je suis Marseillais, oui.
Très bien.
Là, il y a un Bordelais.
Et toi, Sylvain Bordelais?
Ouais, supporter dans la douleur, en Ligue 2.
Et toi, Mohamed?
Supporter du PSG.
Bon, très bien.
Donc, mais si je peux dire un petit mot sur cette affaire, j'ai l'impression que c'est une grosse arnaque des deux côtés. Je pense que les supporters de Lyon, j'aimerais pas être à leur place.
Très bien, bah oui, c'est bien résumé. L'équipe de France dans un instant, les gars. Flo veut parler de la défense anglaise. On parlera ensuite de Didier Deschamps,
française,
qui
française. T'as été mal renseigné, Gilbert. Mais bon, on va en reparler.
Mais j'ai dit quoi? J'ai dit
défense anglaise. Ouais.
Autant pour moi. On commence à.
Ça commence c'est à fatiguer. Hein, ouais. Enfin, défense anglaise. J'ai aussi des choses à dire d'ailleurs. Mais
par contre, on va parler de Deschamps. C'est vraiment deux Deschamps qu'on va parler.
Oui, tout à fait.
Allez, à tout de suite dans l'after pour donc parler de la défense française, car c'est la vie de Flo ce soir à 48 heures du quart de finale des Bleus.
RMC After Foot Intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brivois.
Il est 22h18 en France, minuit 18 ici au Qatar. Stéphane Guy et la Florent Gautreau également à la veille des quarts de finale. On va en parler, bien sûr. On a trois supporters avec notre studio ici au Qatar, Mohamed, Moreno et Sylvain. Avant que Flo prenne la parole, là, racontez-nous un peu votre Coupe du Monde, les gars, Moreno et Sylvain. Vous traînez tous les deux ensemble.
Voilà, c'est ça. On traîne tous les deux dans Doha. On est venu se plonger dans l'ambiance de Doha. Mmh. Puis finalement, on n'est pas déçus parce que c'est plutôt sympa, malgré tout ce qu'on avait pu entendre avant de venir ici. Et puis, non, on passe plutôt des bons moments. Alors, c'est un petit peu compliqué parfois pour aller voir les matchs parce que
Vous n'avez pas les billets avant de venir.
Ouais, c'est ça. Donc, les sites de la FIFA, c'est un petit peu complexe. Mais, mais sinon, on fait notre petit bout de chemin ici et puis on a des nuits calientes avec les supporters argentins. Donc, ils sont chauds, les Argentins. C'est incroyable.
Alors, tout à l'heure, Georges Quirino racontait qu'ils sont tous. Ils logent pour la plupart à l'extérieur de Doha, dans des logements, les moins chers qu'ils ont trouvés, en fait. Hein.
C'est ça. Et puis, le soir, c'est rendez-vous au Souk Waqif. C'est l'épicentre de la nuit à Doha. Et c'est là où tout se passe, quoi.
Un peu zadiste, les supporters argentins. Ouais,
un petit peu zadiste, les Argentins, c'est vrai.
Ils ont c'est vrai.
Les cheveux longs et tout.
Ouais. Mais bon, c'est vrai qu'ils mettent l'ambiance.
Ouais, il y a une folle ambiance au souk. On est agréablement surpris de croiser des Équatoriens. On croise du Mexicain. On croise voilà. Et puis on discute avec eux et très bonne ambiance.
Et quand ils vous voient, ils disent tiens, des Français. Il y en a pas beaucoup.
Ils nous abordent. Ouais. Le français se fait rare, ouais, au souk. Donc on se fait aborder.
France-Angleterre, on prévoit 10 000 Anglais. Alors, j'ai pas le chiffre des Français, là. Je sais pas si vous avez vu passer quelque chose, vous, mais France-Pologne, c'était 3000. Hein.
Ouais. Voilà. Il va falloir faire mieux. Donner de la voix face aux Anglais.
Exactement.
Bah là, sur la voix, on est battu par beaucoup de monde depuis le début. Hein.
Ouais.
Voilà. Et toi, Mohamed, toi, t'habites ici?
Ouais, j'habite ici depuis 2015.
D'accord.
Ouais, je suis venu de Paris pour le boulot, et puis je suis arrivé en 2015, et depuis, je suis plus reparti.
D'accord, donc toi, la Coupe du Monde, t'attendais ça depuis...
Ah ouais, j'attendais ça, surtout que pour moi, le football, ça manquait. Ce qui manque le plus depuis Paris...
Ah, le championnat du Qatar, c'est... T'es pas allé voir Laurent Blanc à Al Rayyan?
Je le croisais une paire de fois, il habitait pas loin de chez moi. Mais non, je suis pas...
À côté d'un golf?
Pas très loin.
Très bien. Non, mais c'est pour info. Hein.
Mais sinon, ouais, super Coupe du Monde, je profite, je vois plein de matchs. Tous les jours, je vois des matchs.
Et vous écoutez l'after un peu tous les trois, là? Ou vous vous êtes dit, tiens, il y a de la lumière, là, on rentre?
Non, on est fervents supporters de l'émission aussi, on la suit depuis déjà maintenant quelques années. Ouais.
Parfait.
Depuis très longtemps, là, moi ça fait plus de 15 ans je pense maintenant, donc j'ai grandi avec l'after en fait. Ouais. Voilà. Ouais. Comme tu dis souvent, Gilbert, il passe le bac avec l'after et tout, j'ai fait partie de ces gens-là.
Ah, voilà. Tu l'as eu?
Ouais, je l'ai eu quand même. Ça
bravo.
Ouais.
Et moi, pour la petite histoire, je viens de Dunkerque à la base, je suis parti à Paris en 2008, mm-hmm. et j'ai découvert RMC à Paris en 2008 et l'after, et depuis, j'arrête pas. Et ma parfait. Femme vous adore.
Très bien, vous êtes chez vous les gars, dans le studio de l'after ici au Qatar.
Merci.
Avis de Florent Gautreau, vous connaissez le jingle Florent Gautreau, donc forcément, le bémol, pourquoi pas, on va voir ce que Paul nous a réservé.
Des bons sablés au chocolat, Michel et Augustin. Merde.
Ah oui, ça fait
je sais pas si, si depuis ça a une incidence, mais je reçois plein de spam Jackie et Michel.
Alors non, ça c'est quand tu vas. Ça tu sais comment ça, mais c'est quand tu vas sur. Bah bien sûr.
Et en fait, je le dis, c'est la vérité. Mais comme personne ne me croit, de toute façon, c'est pas grave. C'est un combat perdu d'avance.
Bon alors, pourquoi est-ce que tu voulais parler spécifiquement de la défense de l'équipe de France ce soir?
Parce que courageusement, je vais aller dans le fil de ce que j'ai dit la semaine dernière. C'est que j'ai dit la semaine dernière que, pour ce que j'ai dit un petit peu depuis quelques semaines, que je ne voyais pas l'équipe de France aller au bout. Aller au bout, hein, c'était carrément essayer de gagner ou pas la Coupe du Monde. On est tenant du titre, donc c'est l'objectif hein, pour une nation tenante du titre. Et... même si mon raisonnement avait changé un petit peu entre-temps, parce qu'il y a quelques mois, en juin, j'avais été carrément négatif, parce que je pensais que certains cadres allaient plomber un peu cette équipe de France et rendre compliquée la défense du titre. Alors que finalement, les quelques absences ont un peu arrangé Deschamps, c'est une thèse, hein, notamment dans la gestion de groupe, y compris celle de Benzema, pour une gestion de groupe plus facile, plus à sa main, entre guillemets, et avec des joueurs qui étaient forcément prévenus, vigilants, notamment sur le processus du risque, tu sais, qui arrive parfois, Gilbert, aux équipes qui ont gagné la Coupe du Monde et qui minimisent un peu le premier match, etc. Tout ça a été évité parce que le contexte a changé. Néanmoins, il reste une raison et pour laquelle je vais rester sur mon idée que ça va être compliqué d'aller au bout. J'ai évoqué comme argument la semaine dernière la défense et aussi le milieu, c'est-à-dire finalement la constitution de la liste par Deschamps tel qu'il l'avait souhaité, et notamment le problème des latéraux, puisque c'était un choix de sa part, assumé, y compris de ne pas rappeler un 26e, et donc l'absence de Klose, de Digne et autres Ferland Mendy, peu importe. C'est assumé, Deschamps sait ce qu'il fait, il a réussi de nombreuses choses, donc je vais pas lui apprendre le football, mais ma thèse pour demain, c'est de dire c'est le crash test. C'est puisque c'est pas contre la Pologne après le crash test. Après-demain, pardon. C'est pas contre la Pologne. C'est pas dans ce groupe qui était au final, comme on l'avait dit, mais relativement facile. Après, on sait jamais comment ça peut se passer, mais l'Australie, la Tunisie, c'était pas très très dangereux. Donc cette équipe de France, certes, elle monte en puissance et il y a une euphorie autour d'elle, et à juste titre, parce qu'elle a fait la plupart des matchs sauf la Tunisie, elle a largement fait le job, y compris devant, mais finalement on n'a pas eu le crash test sur les questions qu'on peut se poser. Je peux même inclure le gardien, puisque Loris, des questions se posaient quant à son statut par rapport à Maignan notamment, Maignan étant blessé, il n'y a plus de questions là-dessus, certes.
Il n'a pas été resplendissant contre la Pologne, hein, Loris.
Et donc il faut aller chercher un petit peu, regarder certaines sorties.
Sur Loris, je continue un mot, juste simplement pour dire, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais la presse anglaise a déterminé Loris comme le point faible de l'équipe de France. Ils le connaissent en plus, ils le voient tous les week-ends.
Oui, alors moi je n'irai pas jusque là. Je pense que le point faible de l'équipe de France, donc, et c'est la suite du raisonnement, c'est les latéraux. Ils sont identifiés. On attend tous les duels Koundé, Foden, Saka, Théo Hernandez. Même si Théo Hernandez, à sa façon, est indiscutable, mais pareil. Espérons qu'il ne lui arrive rien du tout, parce que derrière, pour le
indiscutable,
coup,
car le seul, c'est comme Textor.
Ouais, c'est un peu ça. Et surtout, c'est une autre question qui se pose derrière. En dehors du fait que ce ne sont pas des latéraux de métier, que c'est compliqué pour eux, et moi je ne leur jette pas la pierre, puisque la liste a été constituée comme cela, ça peut être compliqué, et on en vient après au problème du banc, des remplaçants. Et là, les Anglais ont moins de soucis que les Français, parce que je dirais que sur le 11 type, les Français se défendent largement. Il n'y a pas de solution. on n'a pas de solution pour remplacer forcément, puisque déjà on n'a pas de solution, on va dire originelle pour les postes, pour ces postes de latéraux. Donc le crash test demain face à vraiment ce qui se fait de bien en ce moment au niveau attaquant et de meilleur au monde, en dehors du Brésil bien sûr, au niveau des attaquants anglais, et j'oublie pas le banc de touche dont Rashford évidemment, et le crash test aussi sur les coups de pied arrêtés. Et là, je remets Loris dans le jeu et je remets la charnière centrale parce que, oui, Upamecano s'en est sorti, mais maintenant, on va le voir aussi dans un autre domaine et contre une autre opposition. Et j'inclus enfin, puisque Tchouaméni, c'est une question intéressante à mon avis à poser, dans ce genre de match à ce niveau-là, puisque moi, je suis fan de Tchouaméni, mais il a montré aussi, et une Coupe du Monde, ça sert aussi, c'est révélateur aussi pour ça, que ce n'est pas aussi évident que cela dans ce mois de novembre-décembre. Et donc, en face, il y a Declan Rice et Bellingham, qui est à mon avis ce qui se fait là aussi presque de mieux au milieu dans cette Coupe du Monde. Donc test également pour le milieu. Le milieu et la défense, les points entre guillemets plus faibles de l'équipe de France, identifiés comme tels, le risque pris par Deschamps sur ses latéraux. Je dis que c'est là que ça peut, ce crash test, ce crunch test peut être intéressant.
Bon, je t'ai connu avec des avis plus engagés, hein, parce que ce que tu nous dis là, on avait déjà plus ou moins identifié quand même.
Ouais, mais quand je dis ça, alors quand je dis ça, c'est qu'en gros, je pense que ça peut mal se passer, en fait, in fine, pour l'équipe de France.
Crunch
en fait,
test, voilà. C'est pas mal quand même. Moi, j'aime bien le crunch test. C'est pas mal. Hein, on prend, bravo, Flan. C'est un risque presque assumé par les Bleus, puisque dans la compo de départ de Deschamps, là où il nous a tous surpris, c'est qu'il est passé à 4 joueurs offensifs. Donc à partir de ce moment-là, l'équilibre de l'équipe passe d'un degré vers un autre. On les sent plus capables de marquer des buts que de pas en prendre face aux Anglais. Donc c'est toute la problématique que, à mon sens, vont avoir les Bleus à résoudre face à cette équipe-là, qui elle, en revanche, est une équipe plus équilibrée que la nôtre, me semble-t-il. Et encore une fois, défensivement, qui a une vraie valeur.
Il y a juste un point pour ce que tu dis, pour répondre à Stéphane. Oui, pour le déséquilibre assumé, c'est vrai, enfin, tant mieux d'ailleurs. Mais déséquilibre aurait été d'autant mieux assumé que tu as des latéraux de métier. Ça n'empêchait pas d'avoir des latéraux, disons, de métier. Mais encore une fois, Deschamps l'a fait. Il connaît très bien le foot. S'il l'a fait, c'est qu'il veut le faire comme ça. Donc, très bien. C'est pour ça que je dis test. Moi, je dis, je me suis trompé, par exemple, sur Griezmann. Dans tout ce que j'ai pu dire sur l'équipe de France récemment, je ne m'attendais pas à un Griezmann à ce niveau-là. Je l'espérais avec ce recul à ce poste, mais franchement, je ne m'y attendais pas. Bon, si Deschamps me prouve qu'il peut gagner la Coupe du Monde avec une constitution de liste comme celle-ci, je m'avouerai vaincu, et heureusement, et tant mieux pour les Bleus.
Juste sur Loris, je veux compléter parce que, en fait, c'est The Telegraph qui consacre un long dossier à Hugo Loris. Il considère même que Pickford est plus fort que Loris. C'est une provocation anglaise, Stéphane.
Exactement. Ah oui.
Alors attends, Stéphane, coach Courbis, c'est de cet avis.
Ah bon?
Il l'a dit tout à l'heure, j'ai écouté dans... Je sais plus si c'est dans Rotten sans flamme ou dans la
Fleur tout à l'heure. Mais il y a deux Pickford, parce que quand je vois le Pickford d'Everton, il me fait peur. Et le Pickford anglais, honnêtement, sur les trois derniers tournois de l'Angleterre, il n'y a rien à lui reprocher. Et encore une fois, le dernier match des Anglais contre le Sénégal, les Anglais étaient très supérieurs, mais le premier moment fort du match, c'est quand même un arrêt de Pickford, une fois encore. Donc,
Et ce que tu dis vaut pour Maguire, hein?
Maguire, c'est un débat en soi, parce que moi, je pense que il y a un délit de sale gueule pour lui.
Oui, mais
il paye, c'est comme ça, c'est le foot est ainsi fait, mais il paye un transfert qui n'a aucun sens.
Non, mais d'accord, on est d'accord que, en tout cas.
Mais c'est un très bon défenseur, Maguire.
Oui, mais en l'occurrence, il n'a pas toujours été très bon avec Manchester, en tout cas en club, et en revanche, là, depuis le début de la Coupe du Monde, il est très bon.
Mais qui est très bon avec Manchester? Ça fait 3 ans que Manchester, c'est un terrain de mine. Donc, par contre, en sélection anglaise, il n'a jamais déçu. On rappelle qu'à l'Euro 2018, ils n'ont pris que 2 buts. J'avais dit 1, mais c'est 2 en fait. Et aucun d'ailleurs en finale. Non, un seul but en finale, voilà. Et que là ils ont pris 2 buts parce qu'ils ont pris à 6-0 contre l'Iran. Ils se sont un peu relâchés, quoi. Mais donc c'est quand même une équipe qui est très 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 solide.
Et le banc de touche.
Les gars, là, sur l'avis de Florent, vous êtes d'accord pas d'accord, Moreno?
Sur le risque, on va voir. Ouais, effectivement, les coups de pied arrêtés, les attaquants de pointe, ça peut aller très très vite côté anglais. Donc, il va falloir être vigilant.
Oh, tu dors bien ou quoi là? C'est quoi cet avis là?
Ah, mais c'est vrai qu'il est 2 heures
de plus, je crois.
Il est 2 heures de plus chez vous.
Non, c'est vrai que moi j'attends l'équipe de France sur le combat de haute intensité, notamment au milieu de terrain. Donc, je suis assez d'accord avec l'avis de Florent. Moi, j'attends de voir, par exemple, Rabiot, qui est très fort techniquement, là, voir s'il sera fort et quand il aura un mec qui le pressera très fort sur lui, voir s'il sera aussi dur sur l'homme, parce que ça sera aussi.
Plus comme par hasard, il a dit, moi, j'adore le foot anglais.
Ouais.
Genre, je vous lance un petit message, les gars, prenez-moi.
Voilà, donc là, ça sera vraiment un match test pour lui. Et puis c'est pareil, Tchouaméni, on n'a pas vraiment de match référence pour lui de son niveau, comme ça, sur un match de très haute intensité où ça va très très rapidement. Et puis bon bah voilà, Koundé, on l'a vu se faire prendre dans le dos plusieurs fois, pas très bien placé. Donc ouais, la défense, ça sera vraiment le vrai test.
Tchouaméni et Koundé, c'est les deux qui, s'ils prennent un jaune, peuvent être suspendus pour la demi-finale.
En plus, t'as raison Gilbert. Et pour rebondir et pour aller un peu plus loin sur le milieu de terrain, je pense que quand on dit les Anglais, tu sais, on a ramené le débat médiatique et je pense que ça a rangé beaucoup les Anglais sur cette affaire Mbappé. Notamment l'affaire Mbappé Walker, tu sais, sur la pointe de vitesse, tout ça, un petit débat.
Oui, enfin l'affaire, c'est pas une
affaire. Non, pas une affaire, mais enfin le débat. Un débat qui est très finalement cours d'école, qui est médiatiquement, bon, tu vois, le joueur.
Mais la presse anglaise fonctionne que comme ça.
Oui.
Donc là, c'est un grand classique de la presse anglaise.
Mais très bien, mais je pense que Southgate et son staff, eux, faut les prendre pour des benets, si, pour se dire qu'ils n'ont que Mbappé. Parce que j'entends dire que, ah bah quand ils sont beaucoup sur Mbappé, Dembélé va pouvoir s'amuser sur l'autre côté. T'inquiète pas qu'ils ont identifié Dembélé. Et mieux, sur le milieu de terrain. Là, je rejoins ce que tu dis, je sais plus, excuse-moi, j'ai oublié ton prénom. Mais,
Sylvain,
sur le pressing sur les milieux, et sur Tchouaméni et Rabiot, effectivement, je pense que dans ce qu'ils ont identifié, non, ils n'ont pas identifié forcément les points faibles. Ils ont identifié aussi les points forts depuis ce début de Coupe du Monde. Rabiot est un point fort depuis ce début de Coupe du Monde. Donc Rabiot va être une cible aussi pour ne pas être le joueur box-to-box. Donc c'est vraiment intéressant, y compris entre les deux sélectionneurs. Cette opposition-là, elle est vraiment super intéressante parce que là, c'est le révélateur.
Deschamps va-t-il rentrer définitivement dans l'histoire comme le plus grand sélectionneur qu'on ait jamais vu, toute compétition confondue, si jamais il gagne la Coupe du Monde, et pourquoi pas?
Carrément.
Il traverse, je sais pas, avec qui on peut comparer. On va s'amuser à le faire, tiens, dans quelques instants. Bon, il a pas encore gagné la deuxième comme entraîneur, hein. Mais bon.
Dans le sport français, tu veux dire, Gilbert?
Même
le plus grand sélectionneur du foot. Du foot.
En termes de résultats, là.
S'il gagne la Coupe du Monde, ce sera the best.
Le seul, hein.
Ouais.
Trois, dont deux comme entraîneur. Beckenbauer, c'est une et une.
Zagallo.
Il en a gagné qu'une comme sélectionneur.
Ouais, et il en a gagné une comme adjoint.
Ah, aussi, d'accord.
Oui,
en 94, il était adjoint. D'accord.
Exactement.
Ça, je le sais pas.
On en reparle.
Est-ce que Guy Stéphane sera le plus grand adjoint de tous les temps?
Ah, peut-être aussi. Allez,
lui, il l'est déjà.
À tout de suite dans l'after.
RMC. After Foot, intégrale Coupe du Monde. Gilbert Brivois.
22h37 en France, minuit 37 ici au Qatar. L'after continue jusqu'à 1h du matin, heure française, la libre antenne, tout à l'heure de minuit à 1h. Je rappelle que vous pouvez venir en studio, participer à la libre antenne avec Nico Villas, Thibaut Jean-Grand, vous envoyer un petit message à l'adresse suivante, standard@rmc.fr. C'est Max qui réceptionne tout ça et qui vous rappellera. Pour l'instant, avec Florent Gautreau, avec Stéphane Guy, on va parler de Didier Deschamps. On a avec nous trois supporters des Bleus qui sont là dans notre studio à Doha, Moreno, Sylvain. Mohamed sont là. Stéphane, avant que tu prennes la parole, Zagallo, en fait, effectivement, deux fois champion du monde comme joueur et deux fois champion du monde comme entraîneur, 70 en sélectionneur et 94 comme assistant. Alors, je t'avoue que je ne me souviens pas si en 94, il était là, en gros, comme mascotte ou avec un rôle.
Et il fait la finale 98. En plus.
Et voilà.
C'est,
en plus.
C'est énorme.
Exactement.
C'est énorme, bien sûr.
Exactement. Bon, alors, oui, Deschamps, il est vrai. Que il y a toujours des débats autour de lui. Alors, est-ce que c'est dû à ses postures médiatiques, est-ce que c'est dû à son jeu, je sais pas, ou autre chose, mais en tout cas, tu avais envie d'en parler ce soir.
Oui, parce que dire qu'il aura réussi sa Coupe du Monde, c'est l'équipe de France est en demi-finale, qui était l'objectif de départ, sera un peu simple. Et moi, j'ai envie de dire dès ce soir, Deschamps a réussi sa Coupe du Monde. Je pense qu'on a un match très compliqué qui nous attend samedi. On en a déjà parlé hier, on en reparle ce soir. Pour moi, c'est vraiment 50-50. J'ai aucune idée de ce qui va arriver samedi, mais voilà, ce sera un match de foot avec une issue et puis que le meilleur l'emporte et voilà. Mais en tout état de cause, dans sa gestion de l'événement, une fois encore, il a fait preuve de sa maestria. Flo en parlait un peu tout à l'heure, mais il était attendu. Et moi, je l'attendais peut-être plus que n'importe quel autre membre des Bleus dans cette Coupe du Monde, parce que j'avais dit après l'Euro que ce qui m'avait déçu de Deschamps à l'Euro, c'était qu'il n'avait pas fait du Deschamps. Et je pense que c'était une des raisons pour lesquelles on... Bon, il y a toujours de multiples raisons hein, quand il y a un échec, mais c'était quand même une des raisons centrales, c'était celle-là. Alors les circonstances ont pu à la fois, bizarrement, l'impacter négativement, mais aussi l'aider, puisqu'il n'a par exemple pas eu à gérer le syndrome belge, il n'a pas eu à gérer ces joueurs qui sont juste en haut de la montagne et qui vont basculer, parce que bah, ils étaient éliminés quasiment sur blessure. Je peux pas dire et défendre évidemment l'idée que la blessure de Benzema l'a arrangé, je ne le crois pas du tout, mais en tous les cas, ça a clarifié des situations. Mais il a aussi su, lui, Deschamps, à la bord de cette compétition-là, faire sa révolution, se révolutionner lui-même. On parlait de l'alignement des quatre joueurs offensifs, c'était pas dans le manuel du petit Deschamps d'habitude, donc ça montre une fois encore sa capacité à être un entraîneur pragmatique. Voilà, et puis après, bon, donc je trouve qu'il a, on ne fait que vanter depuis le début de la compétition l'ambiance qu'il y a dans cette équipe, ce qu'elle génère aussi sur le terrain. On prend plaisir à la regarder jouer. On oublie évidemment le match contre la Tunisie. Il y a évidemment des débats sur sa composition de liste, et il est évident que ces débats-là seront ravivés ô combien au lendemain d'une éventuelle élimination face aux Anglais. Mais moi, je trouve que voilà, je trouve qu'en tout cas, il a rempli sa mission pour cette Coupe du Monde.
Tu penses pas quand même que le scénario éventuel contre l'Angleterre sera décisif? Si tu prends une grosse baffe par les Anglais, par exemple, ça peut remettre en question sa réussite,
Bien sûr, si tu prends 4-0 contre l'Angleterre en quart de finale, on va avoir ça autrement. J'y crois pas une seconde, hein, Gilbert. Mais bon, je suis comme toi, je suis pas fakir, pas encore. Donc, je sais pas trop ce qui va se passer, mais je pense que ça va être un match très compliqué, très dur, qui va se gagner par une petite marge d'un côté ou de l'autre. En tout cas, c'est la vision que moi j'ai à l'instant où on se parle. Mais je trouve qu'il fait pas de débat Deschamps finalement. On n'en parle pas dans nos émissions, on en parle très très peu. Et on rappelle quand même deux trois évidences. C'est le nombre de matchs. Il est de tous les entraîneurs en lice le plus expérimenté de tous. Et pourtant, il y a quelques entraîneurs comme Santos au Portugal, ou même Southgate, qui va rencontrer là, qui a été nommé en 2016, donc a aussi lui trois grands tournois derrière lui. Deschamps, c'est 2012. Et puis, je sais que c'est pas forcément le truc le plus regardé s'agissant d'un sélectionneur, parce qu'un sélectionneur, on regarde dans chaque grand tournoi qu'il a géré la performance de son équipe. Deschamps a des vrais titres à faire valoir de ce point de vue-là aussi, mais j'ai regardé son pourcentage de victoires à la tête des Bleus quand même, parce que 136 matchs, 64% de victoires. C'est colossal, hein. C'est colossal. C'est du niveau de Jacquet et Lemaire, qui étaient les deux meilleurs dans le domaine, mais sur des périodes beaucoup plus courtes, sur 4 ans pour Aimé et pour Roger Lemaire. Et pour vous donner une idée, Domenech, qui est resté lui aussi très longtemps, c'est 52%. Donc on est passé de 52 à 64% de succès sous Deschamps. Donc je trouve, en tout cas, si on doit parler de l'avenir de Deschamps, il y a d'autres éléments qui seront à prendre en compte, notamment évidemment le renouvellement, le fait qu'il a 10 ans de mandat, la situation très compliquée à la Fédération Française de Football, le lien avec le Gret, etc., etc. Mais sur la partie, a-t-il ou non su gérer cet événement-là, moi je réponds oui.
Florent, t'es d'accord ?
Il y aura toujours un doute sur Deschamps, et effectivement que j'ai du mal à m'expliquer. J'écoutais Stéphane pour essayer de me dire à moi-même quelle est la raison pour laquelle combien même il réussirait à, par exemple, aller en demi-finale, effectivement éliminer l'Angleterre, parce que moi je trouve que passer le cap d'écart, c'est pour le coup, c'est quand même un objectif, parce que jusqu'à présent poule et huitième en fonction du tirage, enfin en l'occurrence de ce qu'on a eu, la Pologne, c'est pas grand chose. Si t'es éliminé en quart, après avoir été éliminé en quart à l'Euro, ça ternit quand même un petit peu le bilan. En huitième. À l'Euro, ça ternit quand même le bilan, la récente des champs. Ça ternirait. Après, il y a un truc sûr, c'est le manager. Là, je suis certain que c'est un manager au-dessus des autres managers. Alors, je ne mets pas sélectionneur volontairement, parce que je pense qu'aujourd'hui, on l'a suffisamment dit, et y compris à 26 ou 25, avec la nouvelle génération et avec un coach qui a traversé quelque part des années, comme tu l'as dit. En termes Je peux te dire que derrière, il en aurait eu de toute façon, c'est sûr, du succès dans les entreprises avec le job de media training que les sélectionneurs font derrière à des tas de boîtes, et c'est mérité parfois, que ce soit Costantini à l'époque ou d'autres, hein, Wenger, et tout ça est mérité largement parce que ce sont de grands managers. Et alors là, c'est indéniable parce que cette façon qu'il a de retomber à la fois sur ses pattes, de retomber sur ses pattes face à des joueurs, y compris
là-dessus, certains disent que c'est un calcul.
Ah mais peu importe. Là, les joueurs, il les emmène avec lui. Quand bien même il les aurait à un moment donné congédiés.
Quand tu vois les propos de Giroud, les propos de Giroud hier en conférence de presse, Gilbert, tu dis salut, tu dis chapeau l'artiste, parce exactement. Qu'il arrive effectivement à retourner des situations. Et la vie, je l'ai dit hier soir, je le répète, c'est pas linéaire, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est ça la vie, c'est des hauts, c'est des bas, c'est des conflits, c'est des réconciliations.
Donc son intelligence à Deschamps qui est supérieure, pour le coup, elle s'incarne totalement. Et finalement, comme ces tournois, ces Coupes du Monde ne sont pas vraiment la... C'est pas que c'est pas la réalité du foot, mais c'est pas la réalité du championnat, de la durée, de la Ligue des Champions tous les ans, de tout ça. Et d'ailleurs, lui, on sent bien qu'il ne souhaite pas forcément ça, comme il l'a vécu avec l'OM, hein, cette dureté-là, cette fatigue, je sais pas. Il a trouvé, on va dire, en tout cas, son cap avec cet aspect qui est capital dans un tournoi, qui est d'arriver à constituer un groupe. Jacquet était dans le même cas, c'est le fils de Jacquet pour ça. Il m'impressionne pas du tout, comme Jacquet d'ailleurs sur le plan football, mais il m'impressionne totalement comme manager. Je vais te dire, j'aimerais le voir à la tête de tas d'organisations. Et juste ça, c'est entraîneur, évidemment qui sait faire, mais je suis pas forcément bluffé et rarement bluffé. Sélectionneur, il est malin, et là les contraintes, il sait en faire son affaire, parce que bon, mais je suis pas non plus toujours d'accord avec lui. En revanche, manager hors pair, mais si être manager hors pair, ça te suffit à gagner deux Coupes du Monde dans ta vie, ma foi, encore une fois, je m'incline, j'ai rien à dire.
Moi j'attends quand même un génie. Un truc avec impatience, c'est va-t-il une nouvelle fois mettre ses quatre offensives contre l'Angleterre? Parce qu'au final...
T'as un doute, toi, Gilbert, là-dessus?
Bah ouais, j'ai un doute. Ça, pendant 10 ans, il l'a pas fait, puis tout à coup, là, il le fait. Donc alors pourquoi il n'a pas vraiment expliqué finalement le pourquoi du comment. Est-ce qu'il va le faire contre les Anglais? Là, je dirais ok, bravo. Bravo Dédé.
Non, pas forcément bravo, tu vois, dans ce cas-là.
Si, bravo, parce qu'au moins tu vas au bout de ton truc.
Alors je vais te dire autre chose.
Tu vois, tu bouleverses pas ton équipe et tu oses. Le Deschamps qu'on connaît, normalement, là, il te sort un équivalent de Matuidi, tu vois.
Gilbert, oser, ça pourrait être aussi ce soir, alors que tout le monde dit que la compo est connue. D'accord, hein.
Ouais.
Oser, ça pourrait justement ne pas mettre en place.
Ah bah ouais, mais si oser, c'est sortir Dembélé pour mettre un milieu défensif de plus.
Peu importe. Oser pour trouver.
C'est oser ou
non.
Ou craindre.
Non, c'est autre chose. Là, puisqu'on est dans le Deschamps manager, parce que pour moi, c'est ça aussi. Et dans le tacticien, en termes, on va dire stratégique, dans le stratège. Là, ce soir, tu peux te dire qu'est-ce qu'on peut faire pour déstabiliser les Anglais. Je dis n'importe quoi. Hein. On va pas mettre Dembélé. On va faire autrement.
Ouais, mais moi je crois que c'est des trucs de tactique à deux balles, alors que je pense que si je peux me permettre, hein, moi je crois ça c'est des trucs. C'est comme ces entraîneurs qui veulent pas vous donner la coupe d'équipe. Je veux dire en 15 secondes elle est analysée par l'adversaire et c'est donc moi je pense pas ça. Je pense au contraire qu'il est pas fou, qu'il sait que l'équilibre de son, enfin c'est pas l'équipe, c'est la force de son équipe, elle est pas défensive, contrairement peut-être à ce qu'était la force de son équipe.
Donc toi tu penses qu'il changera pas?
Elle est au fond, bien sûr. Je pense que notre seule façon de battre les Anglais, c'est d'y aller.
Mais effectivement,
une pause, mais je voulais quand même rajouter un truc. On va continuer le débat après, mais attends, permets-moi.
Ouais.
On va faire la pause et après je vais te faire une comparaison parce que t'as parlé de Costantini. Ça me fait penser à une comparaison à faire avec Onesta sur un point quand même. Là, Deschamps, il bénéficie aussi quand même d'une génération assez dingue qui lui rend parfois la vie facile aussi. On en débat dans quelques instants. Nos amis supporters ici pourront participer au débat.
S'ils sont pas endormis.
Non, ils sont là. Ils sont pas endormis.
Bon, ça va. Là.
Ils sont un peu intimidés. Peut-être.
On les voit. Hein, attention, hein, on les voit. Vous nous voyez, mais on vous voit.
Allez, à tout de suite dans l'after.
RMC. After Foot, intégrale Coupe du Monde.
Gilles Darbrivois.
Il est 22h51 en France, minuit 51 ici au Qatar. Stéphane Guy est là, Florent Gautreau avec moi dans le studio du Qatar, Mohamed Moreno et Sylvain, supporters de l'équipe de France. Oui, je continue ma petite comparaison avec le handball. Rappelez-vous l'époque Claude Onesta où il avait une génération extraordinaire où en gros dans le milieu du handball il y avait pas mal de coachs qui disaient bon bah là si tu gagnes pas là tu gagneras jamais parce que finalement t'es... bon alors le hand c'est difficilement comparable avec le foot les fameux sports à points nombreux où les différences se font plus rapidement mais enfin là quand même
il y a 5 équipes au radar en foot c'est un peu compliqué quand même.
c'est vrai tu as raison mais là quand même Pogba et Kanté sont pas là, Pam Takou, Rabiot meilleur même qu'il n'était à la Juve pendant 6 mois. Lucas Hernandez se blesse, Pam Théo Hernandez arrive, on a l'impression finalement qu'on y gagne. Benzema se blesse, Pam Giroud dont il voulait plus, il le rappelle, il bat le record. Alors vous allez me dire Deschamps est aussi responsable de tout ça, mais enfin à chaque fois t'as l'impression qu'il a cette ce coup du destin. Qui à chaque fois le sert.
Mais oui, alors ça c'est peut-être que effectivement il y a de ça. Mais rappelons quand même 2002, on a un groupe exceptionnel de joueurs sur le papier. 2010, il y a un groupe exceptionnel de joueurs sur le papier. C'est 2 fiascos retentissants. Donc ça évidemment que la base est là. Hein. Il y a plus de joueurs à disposition de Deschamps qu'il y en avait à disposition du coach du Danemark en groupe. Il y a pas de débat là-dessus. Mais il faut quand même. Quand tu dis Rabiot, aujourd'hui ça va de soi. Mais le parcours de Rabiot, le cheminement de Rabiot, y compris avec Deschamps et voir Rabiot à ce niveau-là en Coupe du Monde, c'est pas de la magie. Hein.
Et Gilbert, il y a un point quand même, il a un souci des champs, à mon avis, hein, c'est que son conservatisme. Et il a une chance, effectivement, c'est que il a eu des événements qui l'ont obligé à bouger. Et il a ce qui est la plus grande des intelligences, c'est la capacité d'adaptation. Ça, je pense que vraiment, il est redoutablement intelligent pour ça. Et il est capable de se renier. Parce qu'il a plusieurs fois fait des chemins dans un sens et dans l'autre. Donc ça, c'est un premier point. Et l'autre point sur son management, et ça, c'est un peu vrai pour tout le monde, si tu as la main sur ton groupe, dans les bons et les mauvais moments, ça peut marcher, sinon ça ne peut pas marcher. Et quand tu parles de 2002, je le dis d'autant plus que je l'ai écrit dans la revue de l'After, mais c'est connu. Le maire n'a pas la main suffisamment sur ce groupe qui est un petit peu en déliquescence.
Oui, en fait, 2002, il y avait beaucoup de signes avant-coureurs.
Il y a des signes avant-coureurs, il y a des choses qui peuvent se voir, il n'y a rien qui se passe et la caravane s'écrase. Pour Deschamps, 2018, il a la main sur son groupe, un groupe plus jeune, les joueurs qu'on connaît mais qui sont plus jeunes de quelques années. Déjà dans l'Euro 2021, rappelez-vous cette scène qui moi m'a choqué, quoi qu'on en dise, sur Coman et Deschamps, des choses qu'on ne voyait pas à une époque, c'est-à-dire en gros Coman qui dit non, moi je reste alors que lui il dit de sortir. Et là je retrouve, y compris grâce, comme tu l'as dit Stéphane, à l'absence de Benzema, de Kanté, de Pogba, de tous ces cadres, ces statuts forts, la possibilité pour Deschamps d'avoir la main. Et je disais hors antenne à Stéphane, je parlais d'un sujet que j'avais vu chez nos confrères de Bein Sport, où on a sous-titré, tu sais, tout le match de Deschamps sur le banc avec Guy Stéphane. Et on voyait à quel point là son management et son autorité passaient et fortement, et notamment auprès des jeunes joueurs qui sont nombreux dans cette équipe. Donc la clé pour de toute façon une compétition réussie, c'est un groupe, Jacquet l'avait montré, quel qu'il soit, peut-être expurgé de certains très bons joueurs. Et c'est un management qui fait que tu as la main sur ton groupe pour qu'ils te suivent partout, pour qu'ils te croient, pour qu'ils croient en toi, pour que quand t'es mené et que le coach te dit des choses à la mi-temps, tu crois qu'il va te permettre de renverser la situation, qu'il t'emmène, qu'un groupe qui t'écoute sur le banc de touche, ce qui est le cas, en tout cas là. Déjà, ça, tu l'as. Après, le reste, t'as des adversaires aussi en face quand ils sont meilleurs que toi. La seule chose, c'est que on verra si... Moi, je pense que ce sont des paris. Et là, c'est plus des paris de sélectionneurs. C'est ces fameux défenseurs costauds, centraux, plus que des latéraux. C'est la confiance aveugle, entre guillemets, à Loris. Bon, mais comme il n'y a pas Maignan, c'était contraint. C'est des choses comme ça. Et après, voilà, sa confiance à Griezmann, elle est récompensée. Griezmann fait un super tournoi, ou pas un poste différent. C'est gagné. Mais après, on va pas me dire que quand même, avec Giroud, c'était aussi évident que ça. Giroud, même bon, à un moment donné, il n'en voulait plus. Il a fallu que les circonstances soient telles qu'il soit obligé, entre guillemets, de le prendre. Et sur ce, il perd Benzema. Et là, il fait du style. À un moment, Olivier, c'est en gros, ça a toujours été mon attaquant. Enfin, j'exagère, mais bon, oui, c'est vrai. Et là-dessus, il est bon. Giroud est un mec très bien, donc tout va bien. Mais ouais, il s'est retombé sur ses pattes, le père Deschamps aussi, quoi.
Vous dites quoi, les gars, vous, par rapport à Deschamps? Tiens, Mohamed, t'en penses quoi?
Ah, moi, je pense Deschamps, c'est Deschamps le pragmatique. Il l'a montré tout au long de sa carrière en tant que joueur, en tant que entraîneur et maintenant sélectionneur. Et je pense, quand on parle de Deschamps, il faut remonter au tout début de l'équipe de France. Il récupère l'équipe en 2012 après le fiasco de l'Euro. Et il a tout à reconstruire.
C'est que finalement, cet Euro, c'était pas tant un fiasco que ça. 2012, on se fait éliminer en quart de finale par les Espagnols qui gagnent ensuite. L'Euro. Ouais. C'était, tout le monde dit blanc à l'époque, c'était un fiasco. Moi, c'est pas un fiasco non plus.
Moi, je pense que c'est un fiasco dans le comportement et dans la gestion de groupe, pas forcément dans les résultats. Passé avec Nasri, avec Ben Arfa.
Il y a eu des soucis.
Je pense que c'est dans ce sens-là. Et je pense qu'on a les droits dans le mur. Et le fait d'avoir récupéré Deschamps en 2012, et on voit la progression jusqu'à aujourd'hui. Le seul point noir, je pense, c'est l'Euro 2021, où je pense qu'il a voulu changer de méthode. Et puis il a vu que ça ne fonctionnait pas. Il est revenu à ce qu'il sait faire, à faire du Deschamps.
Moreno?
Ouais, moi je suis entièrement d'accord avec l'analyse qui a été faite là. Deschamps, c'est vraiment du management. Voilà, c'est avec un groupe, avec des joueurs qui sont pas forcément en confiance, il arrive à faire quelque chose de bien. Le cas Giroud en est le parfait exemple. Là, il brille et on espère que ça va aller encore plus loin. Faut qu'il en fasse de même avec sa défense, un sujet qu'on a abordé tout à l'heure. Voilà, faut qu'il on n'a pas le droit à l'erreur. Pavard, il a fait l'erreur sur le premier match contre l'Australie, mais il s'est retrouvé sur le banc les deux suivants. Donc
tu as raison de souligner, c'est peut-être un point d'ailleurs, puisqu'on parle management, qui m'a un peu surpris dans un Deschamps d'ailleurs un peu nouveau aussi en conférence, où il dit plus de choses. Il donne avant le tournoi, il donne sa tactique, le fait qu'il repasse à 4 derrière. Je l'ai vu faire aussi avant un match en donnant un peu presque sa compo, enfin des choses qu'il faisait pas. Bon, pourquoi pas, pareil, une évolution permanente, c'est toujours mieux que pas bouger. Mais sur Pavard, par rapport au groupe, j'étais un peu surpris. Je trouve que de par ce qu'il en a dit, ce qu'il a fait, bon bah ça, ma foi, ça arrive, hein, tu vas sur le banc, ok. Ce qu'il en a dit derrière, en voulant donc pratiquer cette nouvelle communication un petit peu plus transparente, je pense qu'il a pu faire du mal à ce joueur, et que si t'as besoin de toute façon à un moment ou un autre d'un Pavard demain, parce que Koundé à la 10e minute se blesse ou autre, je pense que Pavard n'est absolument pas en confiance en ce moment. Il le sera encore moins s'il rentre en jeu. Et donc voilà, même un très bon peut faire parfois des erreurs. On verra. Je pense, je suis un peu, c'est une fixette sur les latéraux, hein, vous m'excusez, mais en l'occurrence, déjà qu'on en a pas beaucoup, et même si Pavard préfère jouer dans l'axe, je pense que là, j'ai pas trouvé Deschamps forcément au meilleur de sa forme sur ce dossier.
Sylvain, le mot de la fin pour toi.
Ouais, je voudrais faire un petit bémol là par rapport à ce qui a été ajouté, notamment par Florent.
Ah, ça coûte cher, hein.
Ben, je sais.
À chaque fois qu'on prononce ce mot, je l'ai déposé à l'INPI.
Je fais attention. Ouais, c'est par rapport au cas Lucas Hernandez. Je pense que là, au niveau management de Deschamps, c'est un cas qui a été mal géré. Je pense qu'il aurait fallu le faire jouer défense centrale axe gauche. Je pense qu'il a vraiment de très bonnes qualités à ce niveau-là. Et je pense qu'il se blesse notamment aussi à cause de ça. On sait que les courses entre un latéral et un défenseur central sont pas du tout les mêmes. Son gabarit, c'est vraiment pour moi un défenseur central. Et je pense que cette blessure-là, elle est carrément liée au poste que lui a donné Deschamps et qui pour moi n'est pas le bon. Mm-hmm. Si on avait eu les deux frères Hernandez, un à gauche et l'autre axe gauche en défense centrale, je pense que notre défense, notamment au niveau relance, elle aurait été beaucoup mieux.
D'ailleurs, Ancelotti a annoncé aujourd'hui le retour de Benzema à l'entraînement samedi, jour de France-Angleterre.
Ah, il va peut-être revenir pour la finale, alors c'est ça que je veux dire.
Attention, il revient en n'étant pas apte à 100%, revient au Real pour reprendre. Puis de toute façon, le truc a été. L'éventualité qu'il revienne a été balayée. Voilà pour l'équipe de France. Dans un instant, le Brésil, le Maroc. Et l'Espagne. Sylvain Doulès.
Oui, je voudrais faire également. Un petit coucou à Alex du Mexique, François et Tirlouch.
Très bien, bah c'est fait.
Voilà, merci.
Et puis, Mohamed, toi, tu restes pour parler des Marocains avec nous dans quelques heures.
Ouais, avec plaisir.
Allez, le Brésil est-il le favori numéro 1 selon vous? Le Brésil joue demain face à la Croatie. On va en débattre dans quelques instants dans l'After. À tout de suite.
RMC, After Foot.
Intégrale Coupe du Monde.